eh bien, nous nous retrouvons, Raymond et Elisabeth, pour la lecture de l'exhortation apostolique « La joie de l'amour » du pape François. Alors, dans notre dernière émission, nous avons évoqué que, tout de même, choisir le mariage, c'était aussi très important, et c'est évidemment peut-être là où on attendait dans cette exhortation apostolique le pape, puisque, bon, mais on s'aperçoit aussi que l'amour, ça concerne la vie de tout un chacun, mais un arrêt particulier sur le mariage. Et dans notre émission précédente, on avait vu que ce mariage a plusieurs aspects, il se vit dans le dialogue, et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons voir qu'il se vit dans le monde des émotions. Nous en sommes au numéro 142. Le Concile Vatican II nous dit, le pape enseigne que l'amour conjugal enveloppe le bien de la personne tout entière.
Et il poursuit en disant que cet amour conjugal donne une dignité particulière à toutes les expressions du corps et de la vie psychique, qui sont les signes de l'amitié conjugale.
Donc, on va s'arrêter aussi. Dans cette amitié conjugale, il y a aussi, bien sûr, la sexualité. Et le pape s'interroge à la fin de ce paragraphe. Pourquoi ne pas nous arrêter, alors, pour parler des sentiments et de la sexualité dans le mariage ? Et au numéro 143, il rappelle que les passions ont une place importante.
Oui, parce qu'ils se produisent quand l'autre se rend présent et se manifeste dans notre vie. Que ces passions sont le présupposé de l'activité psychologique la plus élémentaire.
Oui, parce que la passion, ce n'est pas simplement celle qui unit l'un à l'autre, mais c'est aussi tout ce qui se fait. Et ça me paraît intéressant. L'être humain est un être vivant de cette terre et tout ce qu'il fait et cherche est chargé de passion. On se passionne pour, certains la vie des insectes et d'autres les étoiles. Mais aussi, effectivement, il faut cette passion pour simplement animer la vie de tout un chacun. Et puis, bien sûr, la passion de l'un vis-à-vis de l'autre. Et le pape nous renvoie aussi à ce que Jésus vivait.
Oui, il vivait les choses avec une charge émotive. Il compatissait à la souffrance des personnes. En voyant pleurer les autres, il était troublé. Il a pleuré à la mort de Lazare. Et ses manifestations montraient jusqu'à quel point il avait un cœur humain ouvert aux autres.
Et le passage à l'acte de cette passion, eh bien, c'est, nous dit le pape, expérimenter une émotion n'est pas une chose moralement bonne ou mauvaise en soi. Voilà.
Oui, mais c'est l'acte que l'on fait qui est motivé ou accompagné par une passion qui peut être bon ou mauvais.
Voilà, et le mal se trouve, nous dit-il, dans la décision d'alimenter de mauvaises actions et dans les actes mauvais qui s'en suivent. Dans la même ligne, je lis, le fait que quelqu'un me plaise n'est pas forcément positif. Si avec ce plaisir, je cherche à ce que cette personne devienne mon esclave, le sentiment sera au service de mon égoïsme.
Et croire que nous sommes bons parce que nous sentons des choses, c'est une erreur. Se laisser gouverner par ce sentiment, c'est une erreur.
Donc, pas d'égocentrisme, mais le pape rappelle que si la passion accompagne l'acte libre, elle peut manifester la profondeur du choix, et notamment dans l'amour matrimonial.
Qui peut conduire à ce que toute la vie émotionnelle devienne un bien pour la famille et soit au service de la vie commune.
Voilà, alors c'est tout à fait intéressant. Une famille arrive à maturité quand la vie émotionnelle se transforme en une sensibilité qui ne domine ni n'obscurcit les grandes options et les valeurs, et respecte la liberté de chacun. Parce que Dieu aime l'épanouissement de ses enfants. Intéressant, parce que souvent on a l'impression que l'Église est le censeur de la vie passionnelle ou amoureuse. Eh bien, pas du tout. La conviction que l'Église, qui a été souvent combattue comme si elle était opposée au bonheur de l'homme, voilà, la conviction, c'est Dieu aime l'épanouissement de ses enfants.
Oui, et Benoît XVI disait, l'Église, avec ses commandements et ses interdits, ne rend-elle pas amère la plus belle chose de la vie ? N'élève-t-elle pas des panneaux d'interdiction, là où la joie est prévue pour nous, pour le Créateur ? Et Benoît XVI répondait en disant que l'enseignement de l'Église n'a pas refusé l'éros comme tel, mais a déclaré la guerre à sa déformation destructrice.
Donc, une éducation est nécessaire, et je ne résiste pas à vous lire. On peut réaliser un beau parcours avec les passions, ce qui signifie les orienter toujours davantage dans un projet de don de soi et d'épanouissement personnel intégral qui enrichissent les relations entre les membres de la famille.
Et cela n'implique pas, poursuit, de renoncer à des moments de bonheur intense, mais de les assumer comme entrelacés avec d'autres moments de don généreux, d'attente patiente, de fatigue inévitable, d'effort pour un idéal.
Donc, une vie en famille mérite d'être vécue entièrement. Et c'est tout à fait intéressant lorsqu'il dit « Laissons jaillir la joie face à la tendresse quand il propose « Dieu, mon fils, traite-toi bien, ne te refuse pas le bonheur présent. » C'est dans le Siracide. « Au jour du bonheur, sois heureux. » C'est Coëlette. Donc, dès l'Ancien Testament. Le problème, dit le pape, c'est d'être assez libre pour accepter que le plaisir trouve d'autres formes d'expression dans les différents moments de la vie. Et il évoque, c'est au paragraphe 150, la dimension érotique de l'amour.
En rappelant que Dieu lui-même a créé la sexualité qui est un don merveilleux fait à ses créatures. Et il rappelle que Saint Jean-Paul II, a rejeté l'idée que l'enseignement de l'Église conduit à une négation de la valeur du sexe humain.
Il ne s'agit en aucune manière de mettre en question le besoin sexuel des époux. Au paragraphe 151, on évoque l'éducation des passions et de la sexualité. Et est-ce que cette éducation va nuire à la spontanéité de l'amour sexuel? Alors,
la réponse est non.
La réponse, voilà, de Saint Jean-Paul II, justement.
Ouais. Saint Jean-Paul II disait que l'être humain est appelé à la pleine et mûre spontanéité des rapports, qui est le fruit graduel du discernement des impulsions du propre cœur.
Et il évoque... n'est pas un moyen de satisfaction ni de divertissement, elle est le langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. L'érotisme apparaît comme une manifestation spécifiquement humaine de la sexualité. On peut y trouver la signification conjugale du corps et l'authentique dignité du don. C'est au paragraphe 151. Reportez-y-vous.
On m'a défendu longtemps les fontaines du plaisir. On m'a prié trop souvent de me taire et d'obéir. Et j'ai dormi 2000 ans sous les feuilles au bois dormant, où l'on garde sans rougir l'habitude et le talent de ne pas trop réfléchir. Mais un matin de grand soleil, j'ai pris la route des torrents, j'ai bu l'eau forte du réveil, loin des prisons de trop longtemps. Car j'ai la chance d'être femme, et je sais le chemin de l'amour. Car j'ai la chance d'être femme, et je veux
Et nous sommes toujours dans les mots de la foi et dans la lecture de l'exhortation apostolique « La joie de l'amour » à Maurice Laetitia. Et nous évoquions justement l'importance de la sexualité dans la dimension érotique de l'amour, que nous ne pouvons considérer comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la famille. Ça, c'est au numéro 152. Mais c'est un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux, qui conduit à être une pleine et authentique affirmation de l'amour, qui nous montre de quelle merveille est capable le cœur humain. Et bien sûr, et bien comme pour toutes les choses les meilleures, il peut y avoir une manipulation et la violence qui s'ensuit.
Oui, parce que nous ne pouvons pas ignorer que très souvent, la sexualité est dépersonnalisée, qu'elle est affectée par des pathologies, qu'elle est instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste, des désirs et des instincts.
Et on n'a qu'à voir tout simplement comment le corps de la femme est utilisé par la publicité, par exemple. Donc, on comprend tout à fait que le pape écrive « Le corps de l'autre est fréquemment manipulé comme une chose que l'on garde tant qu'il offre de la satisfaction. » Et regardons, les mannequins, il faut qu'elles soient de plus en plus maigres, de plus en plus séduisantes, au point même que certaines s'en rendent malades et que nous sommes obligés de prendre une législation pour empêcher que ce soit des femmes anorexiques qui présentent la mode. Donc, là, on peut évoquer avec le pape, peut-on ignorer les formes permanentes de domination, d'abus, de perversion et de violence, résultat d'une déviation du sens de la sexualité qui enterre la dignité des autres?
Oui, et il poursuit en disant que même dans le mariage, la sexualité peut devenir une source de souffrance et de manipulation.
Il rappelle « L'acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et légitimes désirs n'est pas un véritable acte d'amour. » Et qu'ils sont voulus par Dieu s'ils sont vécus d'une manière vraiment humaine. Saint Paul, vous savez, celui qu'on accuse de misogynie.
Oui, alors il faut replacer les écrits de Saint Paul dans la culture de son époque. Le pape nous dit une culture patriarcale où la femme était considérée comme un être subordonné à l'homme. Mais Saint Paul a enseigné que la sexualité doit d'abord être objet de conversation entre les conjoints.
Donc, lui que l'on taxe de misogynie était quand même très respectueux de ce qui se vit entre les époux. Et Saint Jean-Paul II, donc là on fait un saut de, entre Saint Paul et Saint Jean-Paul II, 20 siècles, nous dit que l'homme et la femme sont menacés par l'insatiabilité.
Oui, parce qu'ils sont appelés à une union toujours plus intense qui risque de supprimer la distance qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Et la dignité de chacun, qui est une dignité propre, inaliénable.
Et il ajoute, quand la merveilleuse appartenance réciproque devient domination, eh bien, cela change la structure de la communion dans les relations entre les personnes. Et il évoque, au passage, il est important d'être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. Ce qui convient, dit-il, d'éviter toute interprétation inapproprié du texte de la lettre aux Éphésiens, où il est demandé que les femmes soient soumises à leur mari.
Il faut prendre l'ensemble du paragraphe pour comprendre ce que veut dire Saint Paul. Et Saint Jean-Paul II disait « L'amour exclut toute espèce de soumission qui ferait de la femme la servante ou l'esclave du mari. » Pourquoi on dit aussi dans les Éphésiens que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps.
Oui, c'est la suite, souvent on l'oublie. Hein. Le texte biblique invite à dépasser l'individualisme commode. Et puis, il y a un élargissement, parce qu'il y a bien sûr les relations sexuelles, mais il y a les relations que l'on a les uns vis-à-vis des autres. Et Paul est beaucoup plus vaste dans l'amour qui doit associer toutes les personnes. Soyez soumis les uns aux autres, non pas de l'esclavage ou de la soumission réciproque, mais simplement, en ce qui concerne les conjoints, fidélité, respect, attention, mais en ce qui concerne les relations aux autres, c'est aussi l'attention aux autres, le respect des autres. Donc, il y a bien la dimension de la sexualité, mais cela renvoie aussi à la dimension des relations aux autres. Alors, au numéro 157, il y a aussi le rejet des déviations de la sexualité ne doit pas nous conduire à les déprécier ni à les négliger.
Oui, il faut être vigilant face à ces déviations et savoir recevoir de l'autre.
Donc, nous rappelle-t-il, l'équilibre humain est fragile. Il y a toujours quelque chose qui résiste à être humanisé et qui peut déraper à n'importe quel moment, retrouvant ses tendances les plus primitives et égoïstes. Et puis, il évoque aussi, eh bien, pour ceux qui ne peuvent se marier, cela concerne de nombreuses personnes. Il évoque la virginité, et comme tous ces aspects sont importants, nous les verrons dans une prochaine émission. Bonne semaine à tous, au revoir.